C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, l'escalier de la vérité nous fait vivre en direct la guerre pour le pétrole iranien. Mossadegh obtient du Parlement un mandat lui permettant durant 6 mois de faire passer des mesures sans vote. Cela ne plaît pas au monde politique et le fait qu'il soit entouré de communistes le rend plus que suspect de sympathie pour Moscou. Profitant de cette fenêtre de tir de 6 mois, Mossadegh va multiplier les réformes. En agriculture, il instaura une baisse des revenus fonciers des propriétaires de 20%. Il ajouta une réforme fiscale allégeant l'impôt pour les faibles revenus, mandata ses ministres pour réformer entre autres l'éducation. Devant l'opposition du Sénat, il obtint une loi réduisant le mandat des sénateurs à 2 ans au lieu de 6. En face de Mossadegh, les propriétaires fonciers résidant pour la plupart en ville, les militaires, les marchands du bazar qui faisaient commerce avec les Britanniques, les notables, tous ceux qui avaient intérêt à ce que rien ne change. Il faut dire que le blocus pétrolier crée une situation de quasi-famine. Le mécontentement enfle. Le 21 octobre 1952, Mossadegh promulgue une loi interdisant les grèves et autorisant la police à en arrêter les organisateurs. Il faut construire à la hâte de nouvelles prisons du fait que désormais, toute personne arrêtée est présumée coupable, à charge pour elle de démontrer le contraire. Du coup, petit à petit, les soutiens de Mossadegh le lâchent, il ne lui reste bientôt plus que les communistes. C'est alors que Montagu Woodhouse, directeur de l'antenne locale du MI6, décide de tenter de convaincre les Américains que le danger, ce sont les Soviétiques plus que le pétrole. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Mossadegh, Hossein Fatemi, avait été victime d'une tentative d'assassinat par des islamistes à la solde du MI6. On l'avait accusé d'homosexualité et d'être converti au christianisme en secret. Il décide en octobre 1952 de fermer l'ambassade britannique afin d'empêcher le coup d'État, mais les espions anglais se replient à Chypre. Alors que les projets de Londres sont mal engagés, l'élection d'Eisenhower et de son équipe férocement anticommuniste va changer la donne. Pour eux, le régime iranien actuel est faible et risque de laisser la place à un régime pro-soviétique. Ils vont aider l'Angleterre, mais ça ne sera pas gratuit. Londres gardera 40% du pétrole, les Américains auront 40% eux aussi. Le quartier général des conspirateurs devient l'ambassade américaine et l'opération Boot devient l'opération Ajax. Le Shah n'a aucune confiance aux Occidentaux. Mossadegh obtient le 6 janvier 1953 une prorogation de son mandat gouvernemental, mais des émeutes éclatent. Les Anglais et les Américains réitèrent des propositions jugées opaques et rejetées. Les relations avec le Shah ne sont pas non plus au beau fixe. Le souverain aspire à faire aboutir les négociations avec les Britanniques. D'autre part, son entourage proche est petit à petit écarté et il reste seul avec son épouse Soraya face à Mossadegh. Le Shah en perd même le goût de jouer à ses interminables parties de poker. Hésitant sur la conduite à tenir, le Shah tergiverse. Et c'est sa sœur jumelle, la princesse Ashraf, qui est le relais des Américains pour inciter son frère à donner le feu vert à l'opération Ajax. Mossadegh, las d'être menacé, annonce en février 1953 qu'il va démissionner. Le Shah, affolé, propose de laisser la place et organise un départ secret avec son épouse. C'est alors que le 27 février à 9h, un message en provenance d'Anthony Eden et de Queen Elizabeth est adressé au secrétaire d'État américain John Foster Dulles, dont le frère est patron de la CIA. Ce message évoque un risque de départ du Shah et prie les ambassades de trouver une solution. Les Américains vont transmettre la supplique à leur ambassadeur à Téhéran et une audience sera demandée au Shah, mais le Shah, s'il accepte de répondre au téléphone, ne peut accorder d'audience à un moment où son premier ministre va lui faire ses adieux. Les rumeurs persistantes font état d'un départ imminent du Shah. Mossadegh lui ayant affirmé que si Sa Majesté refusait l'exil, son premier ministre s'adresserait au peuple en lui demandant de choisir entre deux. Tout semble plié. Les Américains vont alors signifier au Shah qu'ils ont reçu un message d'une très haute personnalité amie qui prie Sa Majesté de ne pas quitter le pouvoir. Le Shah, profondément flatté que la monarque la plus puissante de la terre, Élisabeth II, le supplie de ne pas abandonner le trône, va revenir sur sa décision. Il faut dire que son départ n'est pas resté longtemps secret, a provoqué une grande manifestation de soutien au souverain, tandis que Mossadegh, lui, a dû s'enfuir par les toits. Le Shah va alors annoncer que son voyage est annulé. Le lendemain, 28 février à 11h, un deuxième message vient complètement changer le sens du précédent. Le message précise à 2 reprises que Queen Elizabeth désigne le bateau pas la monarque, car Anthony Eden est en partance pour une conférence au Canada à bord du paquebot. Il y a eu méprise. La reine d'Angleterre, qui ne saurait se mêler de politique internationale, n'est absolument pour rien dans l'affaire. Mais l'erreur d'interprétation va servir les intérêts anglo-saxons. On gardera le silence sur cette histoire. Le chat croira sincèrement que Buckingham l'a supplié de rester. Les Anglais seront tenus dans l'ignorance que les Américains, par erreur d'interprétation, aient mêlé Sa Majesté, la Reine, aux basses œuvres d'un complot. Le chat va donc rester sur la base d'un télégramme mal interprété, et donc le complot peut être relancé.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Au printemps 1953, un débat est lancé sur le rôle exact du chat. Et il en ressort que c'est son premier ministre qui exerce en fait le pouvoir et est responsable politiquement. Entre-temps, la crise s'aggrave. Le pétrole iranien ne trouvant pas preneur, même au quart du prix antérieur. Le mécontentement grandit et les émeutes se multiplient. La CIA, avec son agent Kermit Roosevelt Jr., petit-fils de Theodore Roosevelt, va pouvoir organiser la première révolution colorée de l'histoire en payant les milliers de manifestants pro-chat pour s'en prendre aux milliers de manifestants soutenant Mossadegh. Les Anglais déclenchent un blocus maritime de l'Iran et semblent prêts à intervenir militairement, à saboter des raffineries, voire à utiliser le nucléaire. Le 19 juillet, Kermit Roosevelt franchit la frontière irakienne en voiture avec 100 000 dollars en petites coupures pour fomenter des troubles dans tout le pays.
le chef de la police iranienne se propose pour protéger Mossadegh des manifestants instrumentalisés par les Américains et les Anglais. Il est enlevé sur une instruction du MI6, épaulé dans l'opération par le futur remplaçant de Mossadegh, Fazlollah Zahedi, totalement inconnu du public, en fait un général nazi que les Britanniques tirèrent de la prison du Caire. Des bruits courent que de nombreux membres du Parlement ont été achetés par les Britanniques. Mossadegh, dans une tentative désespérée, propose par référendum populaire de dissoudre le Parlement, ce qui est massivement approuvé dans les urnes. Les opposants font remarquer que les urnes, pour le oui et pour le non, étaient séparées de plusieurs mètres pour identifier les opposants et qu'en sus, des hommes à la solde de Mossadegh jouaient à l'intimidation face à l'urne du non. Malgré tout, Mossadegh annonce la dissolution du Parlement sur la base du référendum et annonce la prochaine tenue d'élections. Les émeutes se poursuivent et le Conseil des ministres a lieu dans la propre maison de Mossadegh qu'on a barricadée. Le 11 août, le Shah, accompagné de son épouse et d'une petite suite, se rend dans une résidence d'été au bord de la Caspienne et y signe le 15 août la révocation de Mossadegh, transmise par route par le commandant de la garde impériale et futur directeur de la sinistre Savak. Mossadegh en est averti par les communistes qui ont des hommes à eux jusque dans la garde impériale. L'émissaire remet le document 8 heures plus tard et se fait alors arrêter alors qu'il était prévu que la garde impériale prenne position à Téhéran aux endroits stratégiques. Mossadegh estime que seul le Parlement était en droit de le révoquer, il fallait attendre les élections. Le Shah, apprenant que son commandant de la garde a été mis aux arrêts, s'affole et s'enfuit à Rome. Le 17 août, Mossadegh annonce à la radio qu'il y a eu une tentative de coup d'État, qu'elle a été déjouée et les instigateurs arrêtés pour la plupart. Zahedi, que le Shah a nommé Premier ministre, est en fuite et une récompense de 500 000 rials pour sa capture est lancée. Mossadegh ne souhaitait pas renverser la monarchie, mais la fuite du Shah l'amène à envisager un conseil de régence. La foule est désormais hostile au Shah, une manifestation a lieu, on surnomme le souverain le voleur de Bagdad. On le voit comme un pion des anglo-saxons, la tombe de Reza Shah et ses statues sont vandalisées. Face à eux, d'autres manifestants menés par un caïd des rues pratiquant le culturisme Shaban Jafari font aussi le coup de poing. Les anglo-saxons semblent avoir raté leur coup, la confusion est extrême. Les manifestations se succèdent, celle des communistes en faveur de Mossadegh étant en fait infiltrée par la CIA. Le 18 août, Mossadegh commet une erreur fatale. Il affirme que le document le révoquant, le firmant, n'existe pas. Et voilà que le fils du Premier ministre Zahedi fait photographier le décret de nomination de son père et les journaux le publient, ce qui décrédibilise Mossadegh. Tout s'accélère soudain. Les manifestations en faveur du Shah se multiplient, les religieux s'y rallient, ce qui amène l'adhésion des commerçants du bazar, la police et l'armée basculent. Mossadegh est retranché chez lui, il y a des affrontements devant son domicile et 200 morts et 300 blessés plus tard, la maison est pillée. Mossadegh, réfugié chez son fils. Zahedi est désormais maître de la capitale et 5 jours plus tard, Mossadegh se rend. Il sera bien traité. Alors que Zahedi est partisan de ne pas juger l'ancien Premier ministre, le Shah tient au procès. Le souverain est rentré en Iran le 23 août sur invitation de Zahedi. Lors du procès ouvert le 8 novembre 1953, Mossadegh va soutenir qu'il aurait accepté sa révocation par respect pour l'autorité impériale s'il n'avait pas eu le sentiment qu'en fait elle était orchestrée par des puissances étrangères souhaitant mettre la main sur le pétrole iranien. Il se voit condamné à mort, peine commuée par le Shah en réclusion à vie dans son village d'Ahmadabad. Il mourra en 1967 à 84 ans. Fatemi, lui, est fusillé. Les Américains suggèrent aux Britanniques qu'un télégramme de félicitations au Shah adressé par la reine ou par Churchill serait bienvenu, mais les Anglais, dans l'ignorance de la méprise américaine, se refusent à mêler Elisabeth II au coup d'État. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, lors de notre prochaine rencontre, nous découvrirons l'Iran d'un Shah remis en selle par les Anglo-Saxons.
Il serait temps que l'homme s'aime. Depuis qu'il sème son malheur, il serait temps que l'homme sème. Il serait temps, il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meure avec un matin dans le cœur. Il serait temps que l'homme pleure le diamant des jours meilleurs. Assez, assez, crient les gorilles, c'est assez. Arrêtez votre humain. le désert et les glaciers, cri les épines hérissées, déclouez votre Jésus-Christ, assez suffit. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Depuis les siècles noirs qu'il saigne dans les barbelés de ses fronts, il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur, et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. Assez, assez, crie le ruisseau dans la prairie, crie le granit, crie le cabri. Assez, assez, crie la petite fille en flamme dans son dimanche de s'aime, c'est peu dire, mais c'est là mon pauvre labeur. Je le dis à vos poils à frire, moi le petit soldat de beurre. Que l'homme s'aime, c'est ne dire qu'une parole rebattue, et sur ma dérisoire lyre, voyez déjà, elle s'est tue. Mais voici que dans le silence s'élève encore l'immense cri. Délivrez-vous de vos démences, crie l'éléphant, crie le cri-cri, crie le sel, le cristal, le riz, crie les forêts, le colibri, les clématites et les pensées, le chien jeté dans le fossé, la colombe cadenassée. Entendez-le, ce cri immense, ce cri, ce rejet, cette transe, expatriez votre souffrance.